Le dimanche 31 mai, FMR sera au Forum des Langues, place du Capitole. Sur cette place du Capitole viendront s'installer des stands présentant des langues et cultures du monde entier. En effet, le Forum des Langues du Monde a pour ambition de présenter le plus de langues possible au moyen de nombreuses animations. Ateliers de calligraphie, initiation aux langues, expositions visuelles, chants, jeux, poésie. Tout cela pour montrer la pluralité des langues et des genres d'expression présents à Toulouse, qui font de cette ville un lieu cosmopolite, coloré et culturellement très riche. On fera des directs de 10h à 19h sur les 89.1 MHz de FMR.
Radio FMR 89.1.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 23 mai 2009. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Zarma Farai, et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le sop de science-fiction que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end.
Dans le prochain épisode, tout le monde sur le pont pour le Galaxy Express 199?
Bah ouais.
Si ouais. Pourquoi? Ce sera un spécial Mathieu Auto?
Non mais c'était juste parce que je cherchais une finale. Ah. Pour mettre 199 et ah. Pas la 2.
FMR présente Supplément Week-end 199. Le magazine des cultures geek. BD, ciné, DVD, TV, baston. Avec du sport, Ultimatum, Das Critch et la participation exceptionnelle de JB. Samedi 23 mai 2009. Dans cet épisode, plongé dans la secte, Room vert de gris, vengeance en cuisine, Punishing.
Il est vraiment super ton logo en perspective, j'aime beaucoup.
Hein. Ouais, ouais.
Ça rend méga bien.
Hein. Bah toi, ta maquette est vachement bien.
Ouais, c'est du Euler, j'aime beaucoup.
D'accord.
Et franchement, le studio blanc immaculé, manière station lunaire Moon Alpha, là c'est nickel. Hein.
Bon, avec un gros monolithe noir au milieu, c'est nous.
C'est nous, voilà. Et juste les éclairages, ils sont pas montés là. Je sais pas ce qu'ils foutent dans les studios là, mais. L'éclairagiste a mal fait son boulot, ça fait bizarre avec la lumière à très ras de sol.
Bah bon. Ouais, ça fait un peu résistance.
Bonjour et bienvenue, c'est le supplément week-end 199. La semaine prochaine, c'est la 200e.
Et déjà.
Qui l'eût cru. On est, selon mes calculs, on est toujours le plus vieux podcast francophone encore en activité. En plus d'être une émission de radio qui termine sa 5e saison, donc j'en suis pas mécontent pour vous. Qui m'avait supporté et qui m'avait, je vais dire, soutenu.
Tu t'adresses à nous, aux auditeurs?
À vous. Ah. Non, non, du sport, lui, il s'en fiche. Lui, il a son t-shirt made in Hong Kong et tout. Pff, c'est nickel. Et puis en plus, il y a le studio qui refait point neuf.
Je suis désolé, j'ai pas de t-shirt de Johnny.
Ah oui, non, c'est clair. Évidemment, c'est un gros piège pour tous ceux qui n'ont pas la couleur, mais vous en saurez plus en allant sur le site supplementweekend.fr avec des making-of de cette émission et de celle d'après, de la 200e, samedi prochain, sur lequel ça va être un méga bordel que l'on va leur laisser. On est horrible, hein. Ceci dit, donc, on vous a donné le programme tout à l'heure de ce qu'il y aura. Dans les news, outre qu'il fait pas super beau, etc., aujourd'hui, que tout à l'heure on fait une ch'tite fête entre nous, il y a de la suite dans les aventures d'Astérix. Je ne sais pas si vous souvenez, on vous avait parlé d'un bis-bis entre le gendre de Albert Uderzo, le dessinateur d'Astérix, et Albert Uderzo lui-même, à tel point que le père a licencié sa fille de sa maison d'édition. Ça s'est plus ou moins fait proprement, qu'en même temps il était question de rumeurs comme quoi il allait vendre à Hachette la structure éditrice d'Astérix. C'est pas qu'une rumeur, apparemment ça a eu lieu. Et apparemment, ben, au prud'homme, Uderzo a perdu.
Oui, il a perdu contre son gendre Bernard de Choisy et voilà. Sa fille.
Donc apparemment, il y a plusieurs événements en cascade qui vont se passer, puisque très probablement, sa fille va demander à avoir le contrat de cession des parts de Albert Uderzo et de Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, qui, lui, repose en paix, pour pouvoir éventuellement contester après cette cession. On va voir ce qui va en être.
Oui, c'était une grosse affaire. Il faut dire aussi qu'il y a Uderzo qui avait offert un exemplaire de la couverture de Astérix, Le Rose et le Glaive, que Bernard Choisy, par vengeance, a vendu ensuite.
C'était un cadeau de mariage. Bernard de Choisy l'a vendu après avoir été viré une première fois.
Voilà, ensuite, il y a les disques durs et les PC des deux tourtereaux qui ont été confisqués. Enfin, c'était une grosse affaire d'État.
Par la police, attention. Hein.
Ouais.
On ne rigole plus, là, c'est du judiciaire pur jus. Ce qui fait que c'est les 50 ans d'Astérix. Quand même, hein, en octobre.
Et oui, petit Gaulois.
Et inutile de dire qu'ils respectent la tradition de la bagarre sur la place devant ordre alphabétique. Sympa, quoi. Faut battre le fer tant qu'il est chaud.
Le poisson est toujours pas frais.
Ouais. Oui, ben voilà, on s'est croisés dans les répliques. Enfin bref, vous voyez l'ambiance. Hein. Mai 2009, le supplément week-end est parti dans l'espace. Coucou à Macha dans l'espace d'ailleurs, vieux programme que j'aimais bien. On espère qu'on va rediffuser sur le web. Il est midi et 10 minutes et on va entamer les sorties bande dessinée avec un truc qui était très attendu, c'était une suite. Eh ben non, c'est pas vraiment une suite. Yann au scénario, Olivier Schwartz au dessin, une aventure de Spirou et Fantasio, le groom vert de gris. C'est sorti depuis environ 15 jours aux éditions Dupuis. Et on est donc à Bruxelles en 1942, sous le joug des nazis.
Donc Spirou est toujours groom à l'hôtel Moustique, mais ce dernier a été réquisitionné pour être le QG des forces occupantes. Voilà Spirou passé d'une livrée en rouge à une livrée vert de gris, couleur bleu de Prusse. Fantasio est toujours journaliste, enfin façon de dire, avec l'interdiction de la plupart des quotidiens, il se retrouvait embauché dans le journal Le Soir qui a été volé par les Allemands, avec comme fonction archiviste. Qu'avait vieux papier, mais il s'est trouvé une marotte, inventer des machines incongrues, plein de machines complètement délirantes. C'est grâce à l'une de ces machines bricolées par un Fantasio qui prépare un peu, je vais dire, le futur Gaston Lagaffe, qui peut encore faire tourner sa voiture pimpée, d'une manière improbable. Ou encore qu'il barbouille les murs de Bruxelles de mots rageurs contre les Allemands. Ah, les Boschen. Mais de cette période trouble, le groom, au surnom d'écureuil, est quand même espiègle. Préparant un coup en douce, celui d'échapper à la très belle mais très collante officier Chicken Gruber, une femme magnifique, toute almanique et arienne, et surtout au gradé. Trouver à manger aussi, même si sa position de groom dans un hôtel officiel lui donne accès à quelques petits avantages en nature. Mais surtout ne pas souiller son âme d'enfant de la Belgique. Belgique libre, fière. Et puis voilà. Allez, non. Je vais arrêter de spoiler. On va pas en dire plus sur ce bouquin. Suite au succès critique, mais surtout commercial, du journal d'un ingénu, Dupuis avait décidé de casser le principe de leur collection, une aventure de Spirou par, et puis un dessinateur, en proposant d'en faire une suite. Oui, sauf que cet album, s'il en est la continuité du journal d'un ingénu, n'en est pas totalement la suite. En fait, le scénariste Yann en veut terriblement à Émile Bravo de lui avoir piqué l'idée du Spirou Groom sous l'occupation, qu'il avait imaginé avec le regretté Yves Chaland. Des planches qui sont parues dans Les Inachevés de Chaland, ce qui remonte à 1988. La question semblait même être très sensible dans les différentes interviews de Yann à ce sujet. Le dessinateur Schwartz, illustré en dessinant, désolé humour, dans les années 1980, les aventures de l'inspecteur Bayard, héros de la revue Astrapi, mais surtout fortement teinté de la ligne claire d'Hergé, des débuts de Franquin et de JG. C'était plutôt flagrant. Schwartz avait donc de sérieuses qualités pour se rapprocher de l'idée dessinée par Chaland qu'aurait copié Émile Bravo. Dans les surprises, le nombre de clins d'yeux à Hergé que l'on voit chiner sur les marchés pour préparer sa saga sur Rackham, Rackham le Rouge et Spirou sous les mers, je vais dire. Parce que le nom ne me revient pas dans l'immédiat. Le trésor de Rackham le Rouge, voilà. Et à son œuvre. D'ailleurs, on voit Kiké Fluc, on voit Josette, sans Joko, Joko qui est le chimpanzé, jusqu'à faire figurer Raymond Leblanc, futur fondateur des éditions du Lombard, journal de Tintin, l'ennemi juré de l'équipe du Puy. Dans le Bruxelles occupé, on y retrouve les principales préoccupations des habitants, mais aussi l'émergence des Azou, ces jeunes insouciants qui préféraient danser, se vêtir de manière extravagante, plutôt que de maugréer contre l'occupant nazi. Et le Bruxelleur, l'accent l'argot typique de cette enclave francophone en pays flamand. L'immense travail de documentation et reconstitution historique des auteurs se marie étonnamment bien avec l'intention graphique des auteurs. Car la dernière surprise, c'est une très bonne idée de Yann, c'est de raccrocher ce Spirou à celui de Franquin. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'album, les références graphiques, scénaristiques, mais aussi le comportement des personnages se rapprochent de plus en plus, se devient de plus en plus présent par rapport, à l'histoire conçue par Franquin. Et ça, c'est un bonheur immense. L'histoire se termine par une introduction de la première histoire complète dessinée par Franquin. Je sais pas si vous la connaissez, peut-être que vous en souvenez, pour ceux qui l'ont lu. Même si l'effet de surprise est passé, le bonheur est toujours présent. Une aventure de Spirou et Fantasio, le groom vert de gris, donc qui n'est pas une suite, mais qui aurait été plus ou moins piratée par le journal d'un ingénu. Mais les deux se complètent parfaitement. Scénario Yann, dessin Olivier Schwartz. C'est chez Dupuis dans la collection Une aventure de Spirou. Par...
changement d'ambiance, on va vers le meilleur des mondes, vers un endroit où on est zen et tout ça, mais l'enfer se cache parfois derrière. Pierre, Henri et Louis Alloin, cherchez pas ces deux pseudonymes, vous allez comprendre aisément pourquoi. Dans la secte, c'est dans la collection Contre-Cœur aux éditions La Boîte à Bulles. Des mouvements suspectés de dérives sectaires actuellement en activité entre Raël, les Rosicruciens et autres naturopathes ou néo-religieux, l'église Scientologie est unanimement considérée comme la plus dangereuse car la plus influente. Ses stars, son budget pharaonesque et sa mythologie soigneusement travaillée pour essorer un maximum d'argent de chacune de ses victimes. Elle tient à la fois de l'inquiétant et du mystère, avec la plupart des témoignages tués par ses avocats. La parole de ses victimes est donc plutôt rare, qui a envie d'avouer qu'il a été suffisamment naïf pour se faire piéger, qui a envie de se battre face à des bataillons d'avocats, qui a envie de continuer à subir des menaces anonymes, voire face à la promesse d'un remboursement, qui a envie de continuer un combat qui a déjà été fortement épuisant. Basé sur l'œuvre de l'écrivain Ron Hubbard, une flopée d'écrits plus ou moins disponibles au grand public, un système d'échelons internes servant à la fois de garant d'un grand secret et d'autorité militaire, et d'un alibi pseudo-scientifique afin d'avoir en façade une cohérence plutôt forte et permettant de convaincre les futures victimes. L'église de Scientologie est classée organisation dangereuse en Allemagne, comme secte en France et poursuivie dans plusieurs pays dont la Belgique pour pratique illégale de la médecine et escroquerie en bande organisée. Même aux États-Unis, où elle est plutôt respectée, de récentes poursuites déposées par les ex-scientologues l'accusent de trafic humain et d'avortement forcé. D'après le témoignage de personnes qui en ont fait partie, l'église de Scientologie tiendrait à la fois d'organisation machiavélique dans sa mécanique d'enrôlement, dans son fonctionnement interne par son système de progression dit « voie vers la liberté totale » basé sur des échelons, mais aussi pour faire taire toute voix discordante partant ou provenant de l'extérieur. Par exemple en attaquant les psychiatres, des professionnels qui sont capables de diagnostiquer si un individu est victime de techniques de manipulation mentale. Elle tente de décrédibiliser une profession médicale, scientifique, la mieux placée pour mettre en garde contre ces pratiques supposées. Alors ne croyez pas que les techniques soient anodines. La Scientologie, via une de ses officines, une de ces associations, distribuerait actuellement en France auprès de médecins et de députés des DVD dénonçant les méfaits de la psychiatrie. Et cette organisation soutiendrait via ses associations plusieurs thèses qui mettraient en cause la psychiatrie comme responsable du massacre des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, responsable de l'Holocauste. Un tel effort doit avoir une raison. Pendant ce temps-là, la mission de la Milivude, la mission interministérielle de lutte et de vigilance envers les mouvements sectaires, est actuellement minimisée par le ministère de l'Intérieur quand elle ne se fait pas activement attaquer par des instances européennes qui semblent avoir été noyautées par certains intérêts, se faisant accuser d'entrave à la liberté de religion. Heureusement que l'on a tous le droit de choisir une religion. Mais une croyance ne doit pas devenir un lavage de cerveau, une industrie de l'exploitation de la misère affective. L'église de la Scientologie vient de se faire condamner pour escroquerie en bande organisée, justement, jugement que bien évidemment elle vient de faire appel. Le rapport du juge Fennec, président de la Milivude, vient de sortir il y a 2 jours, au moment de cette émission. Mais ce n'est pas ce genre de littérature que je chronique aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bande dessinée qui est sortie il y a 4 ans. C'est le témoignage de Marion. Marion travaille dans une importante boîte de pub parisienne. Saturée de travail, stressée, pratiquement pas de vie amoureuse et prenant de la drogue pour avoir le sentiment de faire la fête en soirée. Un ex de Marion va revenir dans sa vie et lui parler d'une nouvelle philosophie religieuse qui pourrait lui changer sa vie. C'est exactement ce qui va lui arriver, mais pas exactement dans le sens qu'elle croit. Elle va entrer dans un petit cercle. D'abord s'amuser pour embrasser les croisants, les croyances, d'avoir des amis très bien intentionnés pour finalement partir en stage de motivation à Copenhague. Sans un sou, travaillant pour une misère, dans des conditions particulièrement dangereuses, tenue dans un état de fatigue physique pour mieux accepter ce qu'on lui enseigne au nom de sa nouvelle religion, dans une ville dont elle ne parle pas la langue, coupée de ses amis, de sa famille, bref, totalement déracinée. Prête à accepter n'importe quoi. L'histoire aurait pu finir très mal. Le témoignage de Marion, l'église de Scientologie l'a acheté en lui promettant de lui rembourser 70 000 francs, à peu près la somme qu'elle a dépensée à l'époque dans cette organisation, contre l'abandon des poursuites qu'elle a initiées pour escroquerie. Néanmoins, 10 ans après, cette histoire l'a hantée encore et elle a accepté d'en parler aux auteurs de cet album. Une bande dessinée qui a été passée attentivement au filtre des avocats pour éviter tout procès, tout comme le texte de cette chronique. Un ouvrage préfacé par Catherine Picard, présidente de l'ADFI, que je vous recommande. Et je m'en fiche si Thomas va me faire la gueule, parce qu'après ça, on n'aura plus jamais l'occasion d'interviewer John Travolta ou Tom Cruise.
Oui, merde, on avait un créneau là dans un mois, merde. Tu fais chier, Xavier. Hein.
Pierre-Henri Louis Allon dans la secte, dans la collection Contre-Cœur, c'est chez la boîte à bulles. Et une partie du texte de cette chronique a été écrite grâce au site web prevensecte.com, dont on mettra le lien dans la chronique. FMR 89.1 MHz, vous écoutez le Supplément Week-end. Alors, il se trouve que dans le Spirou que j'ai chroniqué, ah, vous l'avez peut-être pas vu, il est peut-être encore dans mon sac.
Non, on n'a rien vu de ce que t'as chroniqué.
Non, mais il les cache.
Oui. Parce qu'il a peur.
Il y a des références très précises au mouvement Zazou, qui est en fait, c'est la musique de variété au moment de l'occupation. Là, le morceau que tu vas passer, c'est...
Ouais, enfin bon, c'est pas tellement ça. Hein. Je veux dire, c'est le mouvement d'une jeunesse qui ne se reconnaît pas dans les valeurs de leurs parents. Hein, ça, on a vu de tout temps. Et l'original, le mouvement Zazou original, c'est plutôt le mouvement qui a été initié par les Chicanos avant la Deuxième Guerre mondiale, du côté ouest des États-Unis, c'est-à-dire du côté de Los Angeles.
Et déjà à l'époque,
on a des extraits dans le film Sans Rémission dont je vous ai parlé la dernière fois, d'Edward James Olmos. On parle également des Zazou dans le film de Spike Lee, Malcolm X d'ailleurs, hein, qui se passe à la même époque, où on a également la confrontation entre les différentes ethnies, à savoir les Chicanos, les Blacks et tout ça. Et bon, c'est lié plus à un mouvement vestimentaire, on va dire, et à l'écoute d'un certain style de musique. Et après, bon, quand ça franchit les océans, que ça vient en France et tout, on est déjà après-guerre, hein, on est déjà, la guerre vient de se finir et tout. Puis bon, ok, hein, c'est les périodes 45-50. Et c'est également la découverte du jazz pour pas mal de jeunes, hein, initiés par quelques grands fanas, tels que le fanat numéro 1 qui est également
Zazou
et trompettiste à ses heures, à savoir Boris Vian.
Vian, voilà.
Là, on écoute un petit morceau de cette époque-là, hein, c'est Lionel Hampton.
Flying Home.
Avec Oscar Peterson, Ray Brown et Buddy Rich à la batterie. Alors là, Lionel Hampton, il est au vibraphone comme d'habitude. Il faut savoir qu'il a commencé sa carrière dans les années 20 comme batteur, c'est ça. Hein.
D'accord, on en reparlera après. Thank you.
Ouais, ça change, ça fait du bien. Et là, on va passer à tout à fait autre chose. Oui, et voilà, JB est arrivé. On fait un petit résumé pour JB. Donc voilà, donc ça a piqué à Chaland et à Émile Bravo à Pompée. Et petit précis de manipulation mentale. Tu vas voir, c'est génial. Mais de suite, non, on enchaîne.
Ça pègue un peu. Surtout là, qu'il faut qu'il sache, c'est que ça, le studio est trop repeint, donc colle. Il faut que tu mettes des journaux pour pas coller.
Ne touche à rien, j'ai bien compris. Et il est vachement beau ce studio, surtout la lampe en plein milieu.
Voilà, oui. Et sachant qu'on a fait un générique Cosmos 1999 du sport, lui, il en était à de la vengeance pure, brute et précise.
Ouais, il y a son vengeance aujourd'hui.
Punisher,
ouais, là, c'est, là l'histoire en fait n'est pas tellement une histoire de vengeance. Hein, parce que bon, bah, ça fait longtemps qu'il a dégommé. C'est une des répliques à un moment dans l'exemplaire de ce Marvel Saga que j'ai entre les mains. C'est une des répliques où l'un des adversaires de Punisher lui dit: ouais, mais je comprends pas, t'as tué les gens qui ont tué tes parents, ton histoire de vengeance, puis tu as tué les responsables, puis tu as tué les patrons des responsables, puis tu as tué les grands patrons des responsables qui ont été à l'origine de la mort de ta femme, de ta famille et tout. Maintenant tu continues, c'est pas normal, qu'est-ce qui t'arrive? Alors là c'est plutôt une aventure, c'est la suite en fait, hein, du premier Marvel Saga, dans lequel on est déjà le Punisher War Journal, et où il avait quelques sérieux problèmes, toujours pourchassé bien entendu par l'ensemble de la police par quelques autres super vilains qui sont pas mécontents de temps en temps de se dire: si je peux me faire le Punisher, ça me fera une bonne carte de visite. Mais non, là dans ce cas, eh bien Punisher il est un petit peu dans la merde, parce que Puzzle, qui est son super vilain favori, son super vilain du moment, eh bien a commis un crime, mais a tout fait, a laissé quelques indices pour faire accuser Frank Castle, donc le Punisher, de ce meurtre. Un meurtre complètement gratuit qui ne répond pas à la logique, à la supposée logique de Frank Castle, à savoir, bon bah ok, on dégomme les méchants parce qu'ils ont commis quelque chose de mal, donc c'est normal quoi, c'est la justice expéditive. Là, ok, bah ben,
moi j'appelle ça plus que la justice, hein, c'est loi, juge et bourreau.
Ouais, non mais bon voilà, hein, ce cas, c'est plutôt lui qui morfle, hein. Il morfle même qu'à deux moments dans l'histoire, on se dit: putain, ça y est, là il a dégommé, ils l'ont dégommé, il est mort, il a dégagé et tout. Hein, comme on sait que c'est une histoire qui va avoir une fin et tout, on se dit: oh, putain, ça y est, ok, il n'y a plus rien et tout.
Oui, parce qu'il faut savoir sur le Punisher, c'est que c'est un gars qui a aucun super pouvoir, il est juste protégé par du Kevlar.
C'est tout. Il est super souple et tout, donc il arrive à éviter les balles, mais enfin.
Ouais, mais il est butable.
Mais il est butable.
Comme Batman.
Et bon, à un moment, quand il se fait coincer la tête dans les ports de métro et tout, que le métro démarre, tu dis: bon bah ok, puis je clanque, case noire, tu dis: ah bon d'accord, y a plus rien. Ben non, ça repart pour un tour et tout. Mais il se fait quand même capturer par les keufs et tout, quoi. Mais les keufs qui vont lui assigner une mission très très spéciale.
Tu vas t'infiltrer dans une prison et tu vas tenir 20 ans, c'est
non,
ça
non, 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 pas du tout.
Perpète.
Dans ce numéro également, on a l'histoire de Rampage. Rampage qui est au départ un des bons potes de Frank Castle, quoi. Mais qui se transforme justement en Rampage, hein, c'est-à-dire une espèce de hard armure un petit peu sophistiquée, avec plein de petits gadgets qui vont avec, mais parce que justement Punisher l'aurait soi-disant lui aurait caché quelque chose de très important concernant son ex-petite copine qui est morte et décédée. Et ça se termine par bien entendu la participation à la Secret Invasion, où Frank Castle, justement, on va le faire sortir de tôle pour qu'il puisse buter du bon Skrull, et surtout un super Skrull qui les fait chier pendant pratiquement tout un épisode là, mais qui est hyper résistant. Il se demande quoi, parce que bon là vraiment, même au bazooka à un moment il n'y arrive pas, il se dit: mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout, ça déconne complet quoi. Tout ça donc dans ce nouveau numéro 2 de Marvel Saga, uniquement consacré au Punisher, et c'est qui signe d'ailleurs la fin de la collaboration de Mac Fraction avec le dessinateur, je vais le retrouver vite fait, de Mac Fraction avec Howard Chaykin en ce qui concerne le Punisher, parce que Mac Fraction il repart sur les X-Men je crois, hein, et donc il y a une nouvelle série qui a déjà été éditée entière du Punisher, hein, qui est parue aux États-Unis mais qui n'a pas encore été éditée en France et qui sera peut-être nous dit-on, hein, dans la dernière page, peut-être qui sera édité prochainement en France par Panini et par Marvel dans la collection Marvel Saga. Mais enfin ça, pour l'instant, il faudra attendre un petit peu. Donc c'est le Marvel Saga numéro 2, Punisher War Journal de Matt Fraction et Howard Chaykin. C'est le numéro 2 en vente dans tous les bons kiosques et dans toutes les bonnes librairies.
Merci du sport. On reste dans les cadres d'une vengeance ? Tranquillement ?
Oui. Ouais.
Ouais. Cool. Ça va chier ?
Allez, c'est parti !
Suya Angelo
ma foi, c'est un film d'un fort beau gabarit avec un excellent Johnny, on ne sait pas lequel est
oui,
excellent.
Ici à Macao, aïe, ah bah. Johnny est arrivé. Donc il s'agit de Vengeance de Johnito avec Johnny Hallyday et Anthony Wong,
ouais.
Ouais. L'âme suette,
ouais.
Simon Yam,
yeah.
Et Sylvie Testu.
Oh.
Ouais, mais elle crève dans le film, non, hein? Elle crève dans le film.
Elle est salement à la moche,
elle est salement à la moche. Bon, alors ça va.
Ouais. On la voit pas beaucoup.
Ouais.
C'est ça, ta question. Alors, c'est méchant. Frank Costello, c'est un ancien tueur à gages français devenu cuisinier qui se rend à Macao pour éliminer les assassins de la famille de sa fille, elle-même paralysée. Il se lie d'amitié avec trois tueurs à gages qu'il engage pour l'aider à se venger, mais Costello est atteint d'une maladie. Une balle logée quelques années plus tôt dans son cerveau lui fait perdre la mémoire. Réussira-t-il à garder sa lucidité pour maintenir sa quête de vengeance intacte ? Alors...
Ah.
Alors oui, alors, bizarrement je me suis demandé si j'allais en parler pendant la chronique, vu que ça n'a pas du tout été mentionné dans les,
quand les, dans les dossiers de presse et tout le
film.
Reste, ouais.
Voilà. Bon, il faut quand même en parler parce que sinon je parle que de la première moitié du film et puis bon c'est un peu chaud de parler de ça. Alors si je vous dis Johnny Hallyday qui fait pour se rappeler des faits des polaroïdes des gens en marquant au feutre noir dessus les
Memento.
Trucs.
Memento.
Voilà. C'est Memento à Hong Kong, à Macao et à Hong Kong. Alors bon alors Johnny, ben j'avais vu une phrase assez pas mal sur
assez pas mal, ouais.
À la télé par c'est un chroniqueur cinéma sur Canal+, qui disait que effectivement les spectateurs qui voulaient rire de Johnny en allant voir le film ont ri de Johnny, et ceux qui voulaient lui laisser une chance lui ont effectivement laissé une chance. Tu peux te retrouver dans les deux. Bon, Johnny, on peut dire ce qu'on veut avec les pubs qui tournent et tout, mais c'est vrai que il a quand même un putain de faciès. Et puis en plus, ce regard bleu acier, tu peux te dire tout ce que tu veux. Bon, ces chansons, c'est de la musique à papa ou à papy même. Bon,
faut quand même... Non, c'est du rock'n'roll.
Rock'n'roll, ouais. Et il faut dire quand même ce qui est, c'est que Johnny est quand même...
Le rock'n'roll est éternel.
T'as un disque de Johnny chez toi ?
Non.
Oh. Non. Qui a un disque de Johnny ici ?
J'ai une cassette.
Ah, une cassette, bon ça va.
Quand même, attends.
Alors, Johnny est quand même un facet super magnétique.
Il n'y a qu'à voir toutes les femmes qui l'attirent à vie.
Qu'il a quoi ?
Désolé. Voilà.
Merci Michel.
Oui.
Au revoir.
Et donc, compte tenu du fait qu'ici, on adore les acteurs asiatiques, et en particulier Anthony Wong, et compte tenu de leurs rôles respectifs dans le film, il faut dire que chaque fois que Johnny... est seul à l'écran, enfin pas entouré de ces monstres sacrés, c'est quand même électrisant et tu te dis putain de Johnny, ouais ça le fait. Quand il est à côté des gars comme Anthony Wong, il se fait un peu voler la vedette, faut quand même l'avouer. Alors voilà, avec toutes les réserves que j'ai dit au début, bon voilà, c'est que Johnny dans le film, c'est un peu un paquet, un peu encombrant mais attachant, c'est-à-dire que c'est un mec qui parle pas la langue, il sait pas, il est un peu dépassé par ce qui se passe, il vient juste pour louer les services de trois tueurs à gages. Donc surtout les tueurs à gages qui sont mis en avant dans une première partie, c'est eux qui vont faire l'enquête. Johnny va être un peu derrière et tout, alors c'est vrai que le rôle de Johnny fait qu'il est un peu à l'écart. Mais par contre, faut dire quand même qu'Anthony Wong est sacrément excellent dedans. Et c'est vrai que le jeu entre les deux, t'as une amitié naissante avec les personnages dans le film. Mais c'est vrai que Tony Wong quand même est assez excellent dans le film et relègue un petit peu notre Johnny National au second plan. Bon, après c'est voilà, c'est une affaire de rôle et mais après c'est vrai qu'on a affaire à un sacré partage d'affiches avec quand même des gars qui ont quand même pas mal roulé leur boss, chacun dans leur genre, et rien que pour ça, le film vaut le détour. Johnito, bon, on va un peu parler de lui. Bon, on a beaucoup chroniqué de films ici, pour une bonne raison, c'est que d'abord on aime ses films, et ensuite il est extrêmement prolifique. Alors Johnito, son concept, c'est que il fait pas mal de polars urbains, et il va s'attacher à chaque fois à un petit détail, il va se focaliser sur un détail, il va l'étirer, il va un peu bazarder tout le reste, tout ce qui fait un peu les accessoires, il va se focaliser sur un concept assez fort, et il va l'étirer, il va essayer de l'exploiter jusqu'à la moelle, et ça te fait toujours des polars un peu décalés, un peu à l'atmosphère irréelle, et tu te dis... À chaque fois ça flirte avec le vide et à chaque fois ça l'évite. C'est que ce sont des polars un peu en apesanteur. Bon, c'est pas Matrix. Apesanteur, une autre apesanteur. Oh 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 oh. Donc voilà, c'était un peu le concept du détective un peu fou qui parvenait à déceler les personnalités chez les malfrats. Allez hop, on fait un film d'1h30 où on exploite ce concept. Un flic dans un Hong Kong désert de nuit, il perd son flingue. On va faire un film d'1h30 dessus et à chaque fois que ça fonctionne grave. Et là, voilà, c'est. Un cuisinier français qui débarque en Asie, il comprend pas la langue, il sait juste qu'il doit se venger, et au fur et à mesure, voilà, il y a l'amitié naissante avec les tueurs, le concept est archi revu avec la vengeance, avec toujours l'inévitable Simon Yam qui est l'infâme boss qui se retourne contre ses hommes, mais à chaque fois c'est toujours le même truc. On a l'équipe de The Mission et d'Exilé qui est reconstituée en partie avec Anthony Wong dans le même rôle et Lam Suet dans le même rôle, c'est-à-dire le spécialiste en armes. Et l'autre, c'est un peu le boss qui décide de tout avec l'oreillette. Et le mec, il aura fait 50 fois ce rôle-là, mais bon, il est toujours aussi excellent dedans. T'as des scènes qui sont absolument excellentes, où justement, c'est, tu vois, c'est un peu à la John Woo, c'est une affaire d'homme, mais avec du cœur derrière. Donc t'as, il commence à lier amitié autour d'un bon plat de pâtes, puisqu'il est cuisinier, Johnny, donc il va leur faire la cuisine. Il commence à dire, tiens, voilà, on va te faire remonter un flingue, les yeux bandés, pour voir vraiment si le passé dont tu parles, eh ben, c'est vraiment ça. Alors en plus, tu peux déceler des petits sourires au détour de scène, et quand tu vois le profil de ces acteurs-là, tu sens que ce sont des gens qui... Enfin, tu sens qu'ils sont bien entendus aussi au tournage, et c'est pas vraiment une affaire de rôle, et après on passe à autre chose. Et franchement, le film, alors, qu'est-ce que ça vaut? C'est la question, hein, qu'est-ce que ça vaut par rapport aux autres films de Johnito? C'est dans la lignée, le fait que ce soit un polar Frenchy, à nos yeux, bon, vraiment, on a un regard biaisé, puisque en dehors de la France, qui connaît Johnny, donc il va être reçu par les...
La Belgique.
Oui, par les non-francophones, par un film... nos acteurs préférés hongkongais sont un peu relégués au second plan, certaines parties du film, pour cet acteur-là, on sait pas qui c'est. Alors, nous on connaît Johnny, on sait qu'il a un côté attachant et tout, voilà, et après, que peut donner Johnny auprès d'un public allemand, américain? Est-ce que c'est quelqu'un... comment vont-ils le voir? Est-ce que c'est quelqu'un qui cabotine? Non. Bon voilà, est-ce qu'ils vont être intéressés par le faciès, est-ce qu'ils vont être intéressés par le jeu d'acteur, par le personnage, on ne sait pas trop. Ensuite, je me perds un peu dans mes notes. Oui, voilà.
ça m'arrive, mais je suis en régie d'habitude quand je perds.
Oui, mais encore voilà. Après, le truc qu'il faut savoir, c'est que le rôle avait auparavant été proposé à Alain Delon, puisque le gars s'appelle Costello, le même nom qu'il a dans Le Samouraï. Il faut dire que Le Samouraï de Melville a inspiré pas mal de réalisateurs, dont Jim Jarmusch, donc il s'est servi pour son Ghost Dog, et surtout John Woo, hein, puisque aussi dans The Killer, le personnage s'appelle Jeff, personnage de Chun Fat, comme Alain Delon. Là, dans le film de Johnito, vous l'avez vu à l'abondance, vous le verrez dans le film, il a le look d'Alain Delon, mais tu sens que tout transpire Alain Delon dans le rôle, et t'as l'ombre d'Alain Delon à chaque détour de plan. C'est vraiment dommage que... Parce que c'est dommage, vraiment dommage qu'Alain Delon ait refusé le rôle, puisque c'est lui qui l'a refusé, c'est pas pour des contraintes de planning, puisqu'il tourne plus.
Ouais.
C'est vraiment dommage. Johnny Hallyday est loin de démériter, il est efficace, il est...
Mais Johnny n'en est pas à son premier coup d'essai, loin de là.
Il a fait des westerns.
Il faut reconnaître quand même que Johnny a tourné avec des grands réalisateurs et c'est toujours plus ou moins bien démerdé, quoi.
Tu parlais effectivement qu'il était passé un peu au second plan dans le film de Johnito. Ça rappelle exactement comme dans L'Homme du Train de Patrice Lecomte, où évidemment il est mis en relais,
parce que son acolyte, c'est Jean Rochefort, évidemment. Et sinon, bon, il n'a pas fait que des bons films. Je me souviens de Terminus, qui n'était pas...
Ouais, bon, d'accord, ok. Mais enfin, bon, Terminus, c'est pas que Johnny, quoi.
Ouais.
Attends,
ouais.
Et c'est vrai que je disais, il est loin de démériter, mais par rapport au fait que le rôle était auparavant destiné à Alain Delon, tu le donnes à un autre acteur pour un rôle qui n'est pas fait pour lui, c'est vrai que ça le fait pas trop. Là, ça le fait quand même, mais c'est vrai que pendant tout le film, tu te dis, oh putain, avec Alain Delon, la mythologie de Melville, la mythologie de Tau qui sont réunis, ça aurait fait le film en or massif avec les deux cinéphiles qui se rencontrent. Là, bon voilà, qu'est-ce que tu peux dire, bon voilà, t'as l'homme de Godard peut-être. Je sais pas, non franchement, là c'est la grosse déception, mais voilà, après ça reste tout à fait regardable, on vous rassure. Voilà. La petite anecdote, il a annoncé sur le plateau du Grand Journal de Denisot à Cannes, il disait que Alain Delon s'était fait offrir un flingue, le flingue du film, avec son, parce qu'en fait il faut savoir que dans le comme il met au feutre noir pas mal de choses, des mémos, donc ils ont repris le principe, et donc l'équipe de Johnny Toe a envoyé un flingue en cadeau à Alain Delon pendant qu'il préparait le film, avec Alain dessus, et en fait Alain Delon a retrouvé
un vrai
le flingue.
Bah,
le vrai flingue du film, enfin un modèle comparable en tout cas, déchargé évidemment. Donc Alain Delon a retourné le flingue et a marqué Johnny dessus. Il a dit voilà, de Costello à Costello, il a refilé le cadeau puisqu'il avait refusé le rôle. Donc voilà.
D'accord. Ah, pas mal.
Oui.
Pas mal.
Et bon, en tout
respect
cas.
Respect pour une fois.
En tout cas, voilà, c'est un polar de Tau. On peut pas dire qu'il soit raté. Il est vraiment dans la lignée de ce qu'il a fait, des films qu'on aime, qu'il a fait auparavant. Le concept du Memento, c'est pas le premier coup d'essai où les films hongkongais pompent allègrement tout ce qui a été fait à Hollywood, hein, et à chaque fois ils s'en sortent quand même plutôt pas mal, puisque ils proposent un éclairage intéressant avec tout leur savoir-faire nerveux et tout. Au point de vue de la mise en scène, tu te dis que Johnny Tau, ça fait 90 films que tu vois de lui, et tu te dis mais c'est bon, il peut plus rien faire de nouveau. Il arrive à te sortir encore des gunfights dans une déchetterie au ralenti avec des et pas le ralenti de Genou, c'est son ralenti à lui, avec des papiers
c'est
qui volent
de la vitesse
avec des papiers qui volent de partout. Tu dis mais à chaque fois que tu vois un film de Tau, tu dis mais comment ça a pas été fait avant, tellement l'idée est bien. Et justement le fait que ces films soient un peu vidés de leur substance pour justement faire l'éclairage sur le concept qui va étirer jusqu'à la moelle, fait que ce sont ces petits moments de grâce qui sont dont tu te rappelles après, plusieurs jours après, tu dis ouais, voilà, c'est un peu comme les grands films d'action où tous les films d'action sont orchestrés autour de grandes scènes, comme le Mission Impossible avec la scène où Tom Cruise est suspendu à un fil. Si le reste n'était pas aussi vide et un peu en deçà, tu te rappellerais pas de cette scène. Et donc là c'est pareil, c'est pour les amateurs de Johnny Tau, allez-y, hein, franchement c'est pas dénaturé, le fait que ce soit un polar franchise n'enlève rien au mérite du film, c'est vraiment encore du très bon. Donc Vengeance de Johnny Tau avec Johnny Hallyday, Anthony Wong, L'Homme Suède, Simon Yam et Sylvie Testu, et qui est sorti il y a 3 jours.
Supplément Week-end 199, petit break musical, oui, Dus ? Non, t'avais quelque chose à dire, tu me faisais signe.
Ouais, non, ben on pourrait parler comme on était dans Anthony Wong là, on pourrait parler vite fait de la sortie du nouveau numéro de Mad Movies avec Impact. Et dans le numéro précédent du mois dernier, on avait la première partie de l'interview d'Anthony Wong. Là, la deuxième partie, alors dans la première partie, Anthony Wong qui disait qu'il n'aimait pas travailler avec John Woo. Oui, je n'aime pas travailler avec lui, je pense que Johnny Tau est le meilleur, il est bien meilleur que lui. Il ne connaît rien aux acteurs, demandez aux comédiens de voir de face. Nicolas Cage.
Attends. Aux comédiens au singulier. Et là, le journaliste lui rétorque John Travolta. Anthony Wong lui rétorque non, Nicolas Cage.
Voilà, bon, il n'y a pas que ça, mais enfin bon, il a son franc-parler. Et en plus, ce qui est vachement agréable, hein, c'est que c'est pas un con du tout. Dans la deuxième partie, il revient un petit peu sur sa carrière aux États-Unis. Ouais, la momie 3.
Ouais, sa carrière, son film.
Alors là, c'est assez rigolo, quoi. Où il déclare là-bas, le système est trop compliqué, il n'y a pas d'espace pour vous si vous souhaitez modifier votre ligne de dialogue. Il faut d'abord demander au producteur qui va lui-même demander à un autre producteur, puis ils vont organiser un meeting. Tout est figé, il n'y a pas de créativité.
Et un focus group.
Alors, l'intervieweur lui dit pas intéressé par Hollywood, donc si ça m'intéresse pour l'argent. Voilà, ça c'est Anthony Wong avec plein de petites photos vachement sympathiques. Biscope, quoi. Alors là, Biscope. Là, je regrette que mon magnétophone, que mon magnétoscope soit bousillé parce que là, je voulais revoir justement Biscope. Il n'y a pas que l'interview de Anthony Wong, il y a bien entendu Impact, hein, c'est le cinéma d'action, donc il y a Vengeance de Johnny To, mais également tout un gros article sur Milky Way Image, à savoir la boîte de production que Johnny To a créé.
Milky Way, c'est la Voie Lactée en anglais.
Oui, c'est ça. Il y a également un petit article sur le prochain Sly,
The Expendables.
The Expendables qui a l'air bien carton, et aussi la série qui a l'air de bien cartonner, enfin du moins si on en regarde les images, qui va débouler sur M6 prochainement avec Cathy Sagal, Madame Bundy dans Marier deux enfants et Ron Perlman, entre autres, donc, hein, pour une tatouée. Bande de Sons of Anarchy, les Bikers à la télé. Ça risque de dépoter pas mal, donc tout ça c'est dans le numéro de Impact, mais surtout, c'est bien entendu l'interview de Anthony Wong.
Mais Anthony Wong, je termine là-dessus, c'est quand même quelqu'un qui est super honnête, parce que c'est pas la première fois que j'entends parler d'argent dans une interview, parce que dans les bonus du film Infernal Affairs, il en parlait aussi. Il disait que lui, on lui posait la question: qu'est-ce qui vous fait choisir un script? Il disait: moi c'est l'argent. Et c'est d'habitude un truc qu'on ne dit pas du tout, et il dit, je m'explique, en fait
c'est un truc qu'on ne dit pas du tout dans les sociétés occidentales, mais les Chinois, ils ont un autre rapport avec l'argent.
Et il explique pourquoi il dit ça. C'est, il dit, moi, le fait qu'il y ait un gros budget sur un film, alors d'une part, ça m'assure un salaire confortable pour savoir si je vais passer une bonne année ou une mauvaise année. Et deux, c'est surtout un budget confortable m'assure qu'il y aura un casting mastodonte. Et ça peut augurer d'un bon film. Voilà, c'est quand même, faut voir un peu ce qu'il y a caché derrière la réponse, qui est faussement cynique.
Petit break, on va partir de Hong Kong, on va passer par Moscou avec Number in Moscow. Non, pas Number One.
Moscow.
Non, c'est pas ça. Non, par Portiched. JB gros naze.
J'ai rien dit.
Bon, t'es pas gros, ok.
Et après Portishead Number in Moscow, l'homme de l'ombre est arrivé. Avec son porte-document rempli de télé 7 jours, télé magazines et télé 14 blagues par semaine.
Télé Z.
Alors dis-moi du sport, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? On a eu les programmes télé des grandes chaînes américaines cette semaine. Hein.
Ouais.
Chuck saison 3, ouais. 24 saison 8.
Ouais, enfin dimanche, demain il n'y a pas de Chuck.
Oui.
Il n'y a pas de Chuck demain. Demain c'est Monaco, Grand Prix.
Je sais pas, je bois pas d'alcool.
Bon, ok. Est-ce que vous savez que dans le dernier épisode de Pokémon Jungle Fury, Wistikram, en plein combat contre Oursarin, mord l'épaule de Sacha?
Alors il est contaminé?
Non, je savais pas. Non, parce qu'il s'est calmé après.
Ah, d'accord. Mais voilà. Pikachu n'a pas été mordu, lui.
Non, mais Pikachu était également assez interloqué par le fait que Wistikram commence à s'attaquer à son denteur.
D'accord. Voilà. Sans tes conseillers pour ta chronique, ils t'ont dit de mettre ça dedans.
Non, mais ça m'a étonné quand même.
Pas mal.
Alors,
la semaine prochaine, vous aurez la suite des aventures de Pokémon vues par Dispo.
Ou de Sonic X. Alors, parlons un petit peu de Sherlock Holmes à présent. Alors, tout d'abord... vous n'êtes pas sans savoir que le Dr House est une déclinaison de Sherlock Holmes, bien entendu, hein, avec quelques petits indices et tout quoi. Alors il y en avait un dont j'avais pas trop fait le rapprochement. En fait, c'est vrai que si on prononce à l'anglaise, c'est tout à fait logique, hein, Dr House, la maison, et Holmes en anglais. Holmes,
oula, c'est tiré par les cheveux.
Ouais, si. Hein. Bon, bien entendu, alors...
Mais d'ailleurs, dans un épisode, il y a un gars, il demande à House, comment vous appelez ? Il dit, je m'appelle Dr House, c'est mieux que Caravane. Hein.
Alors, il y a également le fait que Holmes habite au 221B Baker Street, qui n'existe pas, hein, ce numéro, et que House habite...
Si, il existe un...
Ouais, mais enfin bon...
Mais le B, c'est le deuxième étage.
Oui,
c'est
mais...
C'est 221, mais au B, c'est le deuxième appartement.
Mais en fait, c'était une adresse fictive à l'époque.
Mais depuis, ça a été
rajouté après.
Ah.
Je sais plus où j'avais...
À vérifier.
Donc, il y a également le fait que donc c'est le 221, alors que House, lui, je sais pas, c'est on le voit dans plusieurs épisodes, il est au 21B, Baker Street.
Ah, oui.
Ok. Plein de petits trucs comme ça, quoi. Bref. Tout ça pour vous dire que, Sherlock Holmes, on peut revoir à partir de mercredi prochain dans l'après-midi. Mais enfin, bon, c'est, ça se laisse quand même regarder ou enregistrer quand même, quoi. C'est la série Sherlock Holmes.
Granada.
Qui a été l'une des meilleures, on va dire. Hein, avec Jeremy, bien entendu.
Oh,
avec.
Yeah.
Jeremy Brett. Et Jeremy Brett qui a également
plus humain que l'humain.
Qui a également interprété le Dr Watson.
Oui.
Avec Charlton Heston en Sherlock Holmes. Mais ça c'était
C'est pas le seul à avoir interprété l'assistant, parce que j'ai appris que Suchard, celui qu'on connaît pour
David Suchet.
Suchet, celui qui interprète
chocolat belge.
Celui qui interprète justement voilà, oh tant pis. Celui qui interprète Hercule Poirot avait interprété justement le second de Poirot dans un film auparavant. Donc c'est assez amusant, on se prépare pour la suite.
Alors cette série qui a été initiée par c'est une coproduction. Coproduction BBC ITV. De 84 à 94 pendant 10 ans, donc 36 épisodes de 49 minutes plus 5 épisodes de 100 minutes, qui a été appelé pour des raisons commerciales, qui ont revêti différentes appellations pour des raisons commerciales, à savoir au départ les aventures de Sherlock Holmes, ensuite le retour de Sherlock Holmes et ensuite les souvenirs de Sherlock Holmes.
Attends, le retour de Sherlock Holmes, c'est une période très précise, c'est quand Moriarty est mort, c'était déjà la suite des aventures était déjà appelée comme ça, non?
Non, alors à la fin des aventures, dans un roman de Charles
à un moment donné, il se retrouve en Suisse, du côté des montagnes suisso-autrichiennes. Mmh. Et Sherlock, qui poursuit Moriarty, donc hein, sa némésis absolue dans l'œuvre de Conan Doyle, se jette sur Moriarty et ils sont au pied des chutes de Lautenbach. Et on voit impuissant les deux se tenir, s'agripper et tout, et tomber dans les chutes de Lautenbach. Et donc c'est la fin de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes est mort. Sauf qu'à l'époque, l'œuvre de Sherlock Holmes démarre en 1887 avec une étude en rouge par Conan Doyle et va durer jusqu'en 1927. Mais à un moment donné, Sherlock Holmes, Conan Doyle, pardon, son auteur, eh bien, est un peu gavé hein, de son héros et décide de le faire mourir. Et donc va le faire mourir dans les chutes de Lautenbach en compagnie de son ennemi juré, le professeur Moriarty, et se dit « Ok, c'est bon ». Mais à l'époque, comme les aventures n'étaient pas publiées dans des livres qui sortaient directement en librairie, mais étaient publiées dans des journaux, donc en périodique, et ce qui faisait qu'il y avait beaucoup plus de lecteurs qui attendaient les suites des aventures de Sherlock Holmes, et on était vraiment désappointés, ont beaucoup écrit aux journaux, et ont dit « Non, non, c'est pas possible, il peut pas mourir et tout ». Et donc, Sherlock Holmes est réapparu, dans un autre roman, sous la plume de Conan Doyle. J'ai réussi au dernier moment à me détacher et tout, et je me suis accroché à un rocher, il y avait un petit arbuste et tout, tac, et puis voilà, et Sherlock Holmes renaît. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que ça se passe dans l'œuvre de Conan Doyle. Alors bien entendu, c'est l'adaptation hein, qui est peut-être variée selon les différents adaptateurs. Là, c'est adapté pour l'ensemble de cette série par John Hawksworth et qui est pas un manchot, faut le dire, parce qu'il a vraiment très très bien adapté, moi je trouve, hein, les différents romans de Sherlock Holmes. Alors, faut savoir que Conan Doyle a écrit au total 56 nouvelles. Alors, ce sont des récits qui sont quand même assez courts, hein, qui sont généralement reliés dans des bouquins sous le titre Les Aventures également, ou Le Retour, ou Les Souvenirs, ou Les Mémoires de Sherlock Holmes, selon les éditions et selon les éditeurs, et également 4 courts romans, donc entre 1887 et 1927. Il faut savoir que Sherlock Holmes, sa première apparition sur écran, elle remonte à 1903. On le voit apparaître dans un petit film muet de 30 secondes. On se rappelle également de l'interprétation
30 secondes
magistrale de Basil Rathbone à partir de 1939. Hein. Là, c'est plutôt
une espèce de mini-film. J'étais là lors de l'avant-première, c'était super.
Ouais, ouais. Et du côté anglais, bien entendu, il a été interprété par pratiquement toute la crème de l'aristocratie anglaise, en ce qui concerne bien entendu les acteurs, Peter Cushing, Robert Stevens, qui donne une interprétation bien allumée quoi, du personnage de Sherlock Holmes, assez intéressante, Christopher Plummer, John Neville, Michael Caine, plus 70 autres hein, au total. Rien que les Anglais, parce que bon, il y a eu les Ricains également. Ouais. Avec à partir de 37 Alan Whiteley, après Ronald Ward, Doug Wilmer et bien entendu beaucoup d'autres.
Il y a même un renard qu'il a interprété dans une série animée de Miyazaki.
Ah oui c'est vrai. Ah ouais. Tout à fait. Alors, en ce qui concerne donc TMC qui rediffuse c'est Sherlock Holmes, c'est à partir de mercredi 15h10. Le premier épisode, le Rupin en moucheté, bon, c'est pas la première œuvre et tout, mais c'est pas tellement grave parce que bon, si, il vaut mieux un petit peu suivre les pérégrinations de Holmes avec Watson. C'est surtout pour cette histoire du retour de Sherlock Holmes. Sinon, il n'y a pas tellement de rapport entre les différentes histoires. Il y a quelques petites trame en filigrane, mais qui reviennent vraiment très 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 ponctuellement. Mmh. Hein, alors, et puis surtout, j'espère que vous savez comment s'appelle le frère de Sherlock.
Hercule ?
Non, pas du
Hercule
tout.
Et Sherlock.
Pas du tout. Qui travaille pour le gouvernement, qui est une sorte d'agent secret, qui est vachement plus intelligent que Sherlock. C'est Sherlock qui le dit, hein. Qui dit mon frère. Mycroft.
Mycroft. Oh mince.
Qui apparaît d'ailleurs en tant que membre de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Souvenez-vous. Dans l'œuvre d'Alan Moore, hein, bien entendu. Parce que je crois que dans le film, il n'y est pas.
Non, je cherchais, non, dans pas, le film, il n'y est pas.
Non, je crois
par contre, il y a Moriarty dans le film.
Ah ouais, mais bon, oui. Attends.
Et d'ailleurs, aux chutes, avec...
Non, j'ai dit Lautenbach, c'est Reichenbach, pardon, excusez-moi.
La série est très bonne parce que il y a une partie de l'œuvre de Conan Doyle qui a été occultée dans les autres adaptations, c'est que Sherlock Holmes est cocaïnomane.
Ah oui, non, non, là, dans cette série, bien,
on voit tout.
On voit son addiction, il n'y a pas de problème.
De l'opium. Dans la série animée.
Ouais, c'est un peu plus cool, quoi. C'est, c'est plus cool que la seringue et tout, ça passe mieux à, la,
ouais, un peu, ouais.
À l'image, hein, donc il n'y avait pas de problème. Alors, à côté de Jeremy Brett, il y a le Dr. Watson, bien entendu. Alors, c'est David Burke qui l'interprète dans la première saison, à savoir dans les aventures. Et puis après, c'est Sir Edward Hardwick, qu'on connaît, c'est celui qu'on connaît le mieux, hein, quand on voit la série Jeremy Brett avec, c'est généralement Edward Hardwick qu'on voit sur les photos ou dans les épisodes. Et il ne faut pas oublier, alors, le personnage récurrent, dans chaque épisode, à part ces deux-là qu'on retrouve dans chaque épisode, il y a un autre personnage récurrent dans tous les épisodes de Sherlock Holmes, pratiquement. C'est
Madame Hudson.
Madame Hudson, Miss Hudson, interprétée par Rosalie Williams. Miss Hudson, une tasse de thé, s'il vous plaît.
Ah, donc c'est pas Madame.
Oui.
Je crois qu'elle est veuve, non?
Ouais, mais on dit Miss Hudson, ouais. Alors quoi. Mmh.
Voilà, non, mais moi simplement. Je préfère la série animée, alors il l'appelle Madame. Alors,
non, c'est Miss Hudson. Miss Hudson. Voilà, donc tout ça pour Sherlock Holmes. Donc à partir de mercredi prochain, 15h10, sur TMC. Donc ils vont rediffuser les trucs à l'appel sans problème. C'est que du bonheur. Et à signaler un autre Sherlock Holmes, une adaptation canado-américaine avec l'épisode Scandal Royal. C'est sur Paris Première mardi prochain à 20h40, interprété par Matt Frewer dans le rôle de Sherlock Holmes et Kenneth Welch dans le rôle du Dr. Watson. C'est mardi prochain sur Paris Première à partir de 20h40. Sinon, au niveau des séries,
oui. Tu t'as fini avec Sherlock Holmes ou non?
Oui, oui.
Non, t'as pas parlé de l'adaptation cinéma qui est en préparation par Guy Ritchie.
Guy Ritchie avec
Robert Downey Jr.
Et
l'autre, je sais plus.
Aïe, je viens.
Alors, Robert Downey Jr., je crois que c'est lui, Sherlock Holmes, ou Watson.
Oui, c'est,
ouais.
Oui.
Et Watson, c'est un autre gars, un
et
autre
Watson,
grand rôle aussi.
Watson, c'est excellent, quoi, aussi, ouais. Pareil.
Et je sais plus. Bon, on retrouvera, on le mettra.
Si, c'est là-dedans, quoi.
Ah, c'est dans... Ah, et JB, Mission, tu as...
Ah, non, je l'ai dans le programme télé, et puis je l'ai pas ramené, donc
bon,
tant pis. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de noter, quoi, t'as entièrement raison. Sinon, côté série, alors, en inédit, ben, on a Nip Tuck sur Paris Première jeudi prochain à partir de 22h20, la saison 5, mais la deuxième partie, c'est-à-dire la partie qui a été enregistrée, réalisée et tournée après la grève des scénaristes. La première partie de la saison 5 qu'on a vue donc déjà est revue, hein, puisqu'elle est rediffusée sur M6, me semble-t-il, qu'on a vu sur Paris Première rediffusée sur M6, eh bien, elle ne comportait que 15 épisodes. Et donc là, il va rester des épisodes pour faire une saison complète, mais ça a été interrompu par la grève des scénaristes. Deuxième partie, on s'en était arrêté, eh bien, à
Sean,
Sean
qui agonise.
Il s'est fait poignarder par Rosie O'Donnell. C'est
elle est bien
c'est
chelou, quoi. Elle est bien chelou, ça.
Ouais, elle est bien chelou, hein, de toute façon, quoi. Ouais, mais c'est Rosie O'Donnell. Hein, on sait ce qu'elle vaut, de toute façon, quoi. Et là, bah, deuxième partie, bah, on va voir ce qui se passe. Donc, c'est à partir de jeudi prochain, 22h20.
Putain, attends.
Nip Tuck,
pardon.
Sur Paris Première.
Qu'est-ce qu'il y a, tu t'es fait mal ?
L'inédit de la saison 5 de Nip Tuck qui arrive jeudi, là.
Magnifique. À noter.
Et sinon, inédit également, bien, c'est la saison 2 de Berlin Brigade Criminelle.
Ah !
Sur Arte vendredi prochain à 22h10. Alors, je sais pas si ça va devenir une habitude, mais sur la fin de saison, de la première saison, on s'était dit, bon, c'est pas mal, comme cliffhanger, ça vaut le coup. Avec une dernière image sur un Léo Falkenstein agonisant avec une balle dans le cou, dans l'épaule. Un autre qui se fait dégommer et tout.
Ouais, ça se terminait bien.
On s'est dit, bon, bah, okay. Comme cliffhanger pour la saison 2, ça peut le faire, y a pas de problème.
Les Allemands sont meilleurs que les Français là.
Et ils se sont dit, bah, on va récidiver pour le premier épisode de la saison 2 et tout, avec encore un cadavre de flic en fin d'épisode. Comme ça, ça peut le faire, c'est assez intéressant. En tout cas, c'est une série qui gagne à être connue, à mon avis. Hein. Le deuxième épisode, c'est vendredi prochain de cette saison 2. Ça s'appelle Schatten, Berlin Brigade Criminelle, sur Arte, 22h10. Ne loupez pas ça, c'est vraiment très, 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 très bien. Très bien.
Supplément week-end 199, 23 mai 2009.
Ah que oui. avec un petit spécial Johnny. On parle de Johnito avec Johnny dedans. Eh bien, c'est la semaine Johnny à la télé. Déjà sur Télémélodie avec pas mal d'émissions. Télémélodie, c'est une chaîne qui est spécialisée dans la rediffusion
dans le même groupe que Dargaud et Dupuis.
Ouais, ouais.
Média Participation.
Rediffuse beaucoup d'émissions musicales qu'il y avait sur la télé française le samedi soir. Hein, les Mariti et Gilbert Carpentier et puis toutes les autres émissions. Achetandre et Cœur de Tête de Bois. Enfin, à bout portant. Et Télémélodie, donc, rediffuse tous ces trucs-là. Avec cette thématique de Johnny. La semaine prochaine, ça commence cet après-midi 15h35 avec un à bout portant spécial Johnny de 75 et à 20h30, Johnny numéro 1 en 75 également sur Télémélodie. Demain à 15h35, Johnny au Palais des Sports en 78.
Ouais.
Et vendredi prochain à 17h05 dans le Sacha Show, invité spécial Johnny bien entendu. Ou alors à 23h05, vendredi prochain également, Kader Roussel, spécial 30 ans de Johnny, c'était en 73, donc vous pouvez calculer l'âge de Johnny en 2009. Sinon, France 3 nous fait également un documentaire, La légende de Johnny, lundi à 20h35, un documentaire de Stéphane Benhamou 2009 avec des images d'archives, tout team et tout. Bon, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Et Paris Première fait plus dans le recyclage de vieilleries. Déjà vu, déjà diffusé, rediffusé. Mercredi 22h30, Johnny Hallyday au Parc des Princes, c'est le concert de 93.
Week-end du calme, du tranquille, du troisième âge, du Johnny Hallyday.
Ah que oui, oui. Avec des films de Johnny. Que des John. Johnny, ce soir, sur Ciné, Cinéma Star à 23h, c'est Marathon Man de John Schlesinger avec Dustin Hoffman, Laurence Olivier, Roy Scheider, William Deven. J'en parle même pas de ce film tellement il est bon. Et il est assez trash quand même, puisqu'il est quand même catégorisé moins 16. Ça m'étonne un petit peu, mais enfin bon, ok, hein, c'est eux qui voient. Et demain, sur Ciné Cinéma Club, à 20h40, Elephant Man de David Lynch avec John Hurt, John Gielgud, Anthony Hopkins et Anne Bancroft.
Toujours déconseillé aux femmes enceintes.
Lundi, oui. Ouais, lundi sur Canal Plus Cinéma, à 18h30, moins 12, le Elephant Man est moins 10, celui-là est moins 12, c'est Mad Detective de Johnito et Wakafai. Co-réalisé, hein, puisque bon, bah, c'est la première réalisation de Waikai Fai, qui était un scénariste de je sais plus qui, mais enfin, bon,
c'est le vieux compère de Johnito,
ouais, ouais.
Son scénariste de tous ses films, et voilà. Il a même scénarisé et, Vengeance.
Ouais, et c'est la première réalisation de Waikai Fai, Mad Detective, avec Johnito, c'est de l'Inti, sur Canal Plus Cinéma à 18h30. Ou alors, Paris Première vous propose à 20h40, Règlement de compte à OK Corral de Johnny Sturges, avec Brute Lancaster. Kirk Douglas, Johnny Ireland et Rhonda Fleming. Lundi toujours sur Ciné Cinéma Frisson à 22h05, moins 12, élection 1 de Johnny To avec Simon Yam, Tony Lungfay et Louis Co entre autres. Sur Ciné Cinéma Star, moins 10 pour Blues Brothers 2000 de Johnny Landis avec Johnny Goodman et Dan Aykroyd. C'est à 20h40. On a également sur Ciné Cinéma Classique, lundi prochain à 20h40, les canons de Batassi de Johnny Guillermin.
en 64 avec Richard Attenborough, Johnny Layton et Mia Farrow. Ou alors lundi encore sur Disney Cinemagic, Rasta Rocket de Johnny Turtletoob avec Johnny Candy.
Attends, faut pas dire n'importe quoi là. Hein.
Oh, attention, tu vas tirer sur le filtre, c'est pas bon.
Oh ouais, si tu vas au bout du tarpé, après t'es éteint quoi.
Avec alors c'est assez marrant parce que bon, chaque fois qu'on le dit, bah, on l'avait pas reparé au départ, il y a Léon qui est dans le film Rasta Rocket, Léon qu'on voit dans Oz. La première saison, oui, le mec Léon, qui se fait descendre et que tu vois dans les clips de Madonna, La Isla Bonita ou un truc comme ça. Et Malik Yoba, qu'on voit dans New York Undercover, entre autres. Donc tout ça dans Rasta Rocket de John Turtletaub sur Disney Cinemagic lundi prochain. Où TCM vous propose également Le Sergent Noir de Johnny Ford en 60. Avec Jeffrey Hunter, Woody Strode et Constance Lauer. Un des premiers films avec un black en premier plan, mais vraiment en premier plan quoi, tu vois.
Ça va continuer, il va nous parler des adaptations des romans de Johnny Le Carré, films avec de Johnny Ford.
Ah non, quand même pas. Mardi sur 13ème rue à 20h40, moins 10 pour Johnny Rambo de Ted Kotcheff avec Richard Crenna, Brian Denny et un petit rouquin qu'on allait repérer par la suite.
Horatio Kane, David Caruso.
Voilà, David Caruso. Amusez-vous à le revoir et puis à repérer David Caruso dedans, c'est rigolo quoi, ça vaut le coup. Hein.
Oui, il fait un petit rôle dans le premier Rambo.
Dans Johnny Rambo.
Un gars pas très malin qui se fait assez vite neutraliser.
Ouais. Oh. Mais ouais, dans le hangar là. Je crois que ça se passe dans un hangar, il me semble.
Et même dans la forêt.
Sur Teva, on a également mardi prochain à 20h35 Salmum de Johnny Turtletoob avec Bruce Willis, Spencer Breslin et Lily Tomlin. Ou mercredi, Orange Cinemax vous propose Sweeney Todd de Tim Burton avec Johnny Depp. Ah ouais, bravo. Mercredi également sur Orange Ciné Géant, sur la piste de la grande caravane de Johnny Sturges en 65 avec Brut Lancaster et Lee Remick.
John Lancaster.
Jeudi sur Ciné Cinéma Star.
Je m'excuse, mais vu qu'on est sur FMR, c'est juste pour réannoncer le nom de la radio. Je sens qu'on va faire un concours. C'est qu'il va falloir compter le nombre de fois qu'il aura dit Johnny, le nombre de fois que le prénom de Johnny aura été réannoncé pendant toute l'émission.
Ah ouais, attends, là tu peux y aller. Ouais,
attends, j'attends quand il va dire Johnny Carpenter, ça va faire drôle.
Eh ben non. Bah non. Et non, je me suis dit bon, facile, John Carpenter, tranquille. Eh ben non. Alors, jeudi, Cinéma Star encore avec à 20h40 moins 10 Barton Fink de Joel et Ethan Cohen avec Johnny Turturro, Johnny Goodman et Johnny Mahoney. À 3 pour le prix d'un, mon gars. Orange Ciné Happy vous propose également jeudi prochain à 20h40 Conseil de famille de Costas Gavras avec Johnny Hallyday, Fanny Ardant et Guy Marchand. Et vendredi,
Johnny Marchand là-dedans, waouh.
Ouais, Johnny Marchand. Et vendredi, pour terminer, un petit polar sur Ciné Cinéma Star à 21h, moins 10, Mad Dog and Glory de John McNaughton. Johnny McNaughton, ouais, si. Avec encore le petit rouquin qui déménage aux côtés de Robert De Niro, Bill Murray et Uma Thurman. C'était le deuxième film qu'il faisait juste après Henry, Portrait of a Serial Killer. Non, ou le troisième, quoi. Et bon, il est pas terrible, quoi. Mais
c'est juste avant Sex Crimes, peut-être
Ouais, non, mais bon.
Tu parles de David Caruso
Non, de John McNaughton.
Ah, ouais, mais c'est lui qui a fait aussi Sex Crimes, mais ça doit être la période début des années 90, ça, non?
Non, parce que Henry, ça date de 90 ou 91, me semble-t-il, quoi.
Henry, Portrait of a Serial Killer.
Ouais, ouais.
Ça date.
Celui-là est de 92.
Fin 80, parce qu'il y a un passage dans Journal Intime de Moretti qui en parle, et le film était déjà sorti déjà au moins depuis 2-3 ans.
89 alors.
Et Journal Intime, ça date de 91, donc je dirais 88, ouais. 88-89.
Bon, ouais, ok. Bon. On va en rester là alors, quoi.
Tout dépité.
Oh non.
Pendant que l'autre finit son podcast.
Bon, ça y est,
oui,
on attend, hein,
c'est bon le podcast là.
C'est fini?
Ouais, c'est bon.
Alors, on va dire que d'habitude, il nous critique parce qu'on n'écoute jamais ses chroniques.
C'est déjà fini?
Ouais. Toi non plus, t'écoutais pas? D'accord.
Bon, tu l'as fait? Tu l'as fait la suite, bordel de Dieu?
Ouais, j'aimerais bien avoir le papier.
JB est en train de prendre le papier, voilà, etc.
Gracias.
Voilà. comme je le rappelle, pour ceux qui nous écoutent sur le making of, là en fait on ne m'entend pas à l'antenne.
Donc Johnny, si.
Ah pardon, loupé.
Peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route?
Mais oui, bien sûr Johnny, on a fait un générique spécial 199e émission de la bande dessinée où il faut faire attention à ce qu'on dit dessus. Du Spirou chez les nazis, un Frenchy à lunettes chez les chinois, un Punisher qui dérouille sa mère dans le métro, un Sherlock maison qui meurt et ressuscite, et plein de Johnny.
Ah que oui. Non, de plein de Johnny, ils ont manqué tout ça. Ah que heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et à que retrouver les chroniques écrites, fouiller dans les archives et jouer à des quiz stupides. A que laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas, boîte à coucou, il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr. Vous écoutez FMR sur 80.1 MHz, nous sommes en direct, en alternance avec que Booster FM, et on continue avec...
Voyez, avec
vous
du,
suivez
avec
pas le
du sport, sport. Okay, du sport.
Et on continue, non, je suis désolé, vous ne suivez même pas sur www.radio-fmr.net.
Oui, oui, oui.
Dans le prochain épisode, c'est notre... 200ème.
Ouais,
on compte sur vous prochain épisode. Ouais.
A que d'ailleurs, on sait pas encore le contenu de cette émission. Merci, mais tu ne sauras pas tout de suite.
On sait qu'il y aura des gens.
Ouais.
On sait que vous êtes les bienvenus et on sait que les odeurs de peinture devraient être dissipées. Donc,
chouette.
Voilà, hein, c'est toujours ça. Voilà, ciao, bye bye, merci.
Voilà,
à
salut,
tous.
Bon week-end.
Donc quand on se retrouve la semaine prochaine.
Bah ouais.
Même ma fréquence.
Ouais.
Go pour l'apéro.
Voilà, et puis pour ceux qui nous écoutent à l'antenne ou ceux qui écoutent le podcast normal, et ben sachez que vous aurez le making of, ce qui se passe dans l'oreille du réalisateur, qui sera disponible un petit peu après sur supplementweekend.fr. Ciao à tous, bye bye, merci à tous de nous avoir écoutés, merci encore une fois de votre soutien, et merci au Rocket Scientist pour le générique de Cosmos 1999 qu'on a utilisé en ouverture. Ciao, plus.